Badania europejskie.
Rozumiem da Europę.
Rozkrucia Europej.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Les Suédois ont voté il y a tout juste 15 jours et le pays est dans l'impasse. Le score réalisé par le parti d'extrême droite, les démocrates de Suède, qui est arrivé en troisième position avec 17,5% des suffrages, paralyse le traditionnel système des blocs. Si les sociodémocrates restent le premier parti du pays, ils sont en net recul, tout comme l'alliance des conservateurs et des libéraux. Aucune coalition de gauche ou de droite ne paraît en mesure de gouverner le pays et la crise promet d'être longue. Mais au-delà d'un gouvernement introuvable, que s'est-il passé en Suède? L'afflux migratoire est-il la seule explication du succès du parti de Jimmy Åkesson? Est-ce la fin du mythe suédois de cette société tolérante et prospère, longtemps idéalisée? Le pays, réputé pour son sens du consensus, est en tout cas aujourd'hui fortement divisé, malgré une réussite économique indéniable. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Wojtek Kalinowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la fois polonais et suédois, ce qui est assez rare. Et vous vivez en France, vous êtes le co-directeur de l'Institut Veblen. Un mot sur l'Institut Veblen qu'on ne connaît pas très bien.
C'est un think tank dédié à la réalité, à la transition écologique, mais on traite aussi des questions de justice sociale. Et donc c'est un peu dans ces cadres que je me suis intéressé beaucoup à où va le modèle social européen, et donc le modèle suédois aussi.
Et d'ailleurs, vous avez publié un livre récemment qui s'appelle « Le modèle suédois ». Et si la social-démocratie n'était pas morte, il a été publié par les éditions Charles-Léopold Meyer. Pierre Fortum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant. J'ai envie de vous présenter comme le plus français des Suédois, ou le plus suédois des Français. C'est un peu comme on veut. Vous êtes tout le temps entre Paris et Stockholm.
Voilà, je partage ma vie entre Paris et Stockholm et j'essaye de faire découvrir justement le modèle suédois aux Français et aux dirigeants français pour qu'ils s'en inspirent.
Et peut-être le mode de vie français, le modèle français au suédois. Peut-être.
Absolument, ça c'est extrêmement important.
Et à Stockholm, nous rejoignons Thomas Lindbom. Bonjour, hey.
Bonjour, hey.
Vous êtes journaliste et historien. Merci d'être en ligne de la capitale suédoise. Alors Wojtek Kalinowski, les électeurs suédois qui se sont déplacés en masse le 9 septembre dernier avec une participation supérieure à 80%, ont dessiné un paysage politique totalement chamboulé. Je résume en quelques mots, les sociodémocrates restent le premier parti du pays, mais avec le score le plus faible de leur histoire. Le bloc conservateur, qu'on appelle aussi l'alliance bourgeoise, recule elle aussi, tandis que le parti d'extrême droite, les démocrates de Suède, réalisent leur meilleur score, avec 17,5%, je l'ai déjà dit, mais très inférieur à ce que les sondages leur prédisaient. Alors on voit bien qui a perdu ces élections, mais est-ce que quelqu'un les a gagnées?
Une excellente question pour commencer. Elle est difficile. Non, je ne le pense pas. Cela dit, un message positif de ces élections, c'est quand même effectivement par rapport au ce qu'annonçaient les sondages, le score de l'extrême droite est finalement plus modéré. Et ils s'y voyaient déjà en deuxième position avec 20% voire plus. Maintenant, ils sont quand même arrivés en troisième place. La droite traditionnelle a gardé sa position de deuxième place. Donc, c'est quand même le parti traditionnels ont de quoi se consoler face à cette troisième percée consécutive de l'extrême droite.
Malgré un score qui a augmenté de 4,5%, presque 5%.
Et le sociodémocrate et le parti de droite, le premier parti de droite, le Moderate, ont baissé. Néanmoins, vous voyez finalement, malgré l'avancée de l'extrême droite, finalement ce Parlement ressemblera au précédent. Parce que déjà, pendant la période législative précédente, vous aviez eu deux blocs, de gauche et de droite, chacun minoritaire. Donc, ils ont trouvé... Et le gouvernement sortant, c'était un gouvernement minoritaire, qui a quand même su non seulement survivre, mais en plus passer 26 accords gauche-droite pendant ces 4 années. Donc, vous voyez, il y a quand même une tradition un peu pragmatique de coalition, ou en tout cas des négociations gauche-droite, et je compte sur cette tradition-là pour les années à venir.
Pierre Fortum, depuis que vous vivez entre Paris et Stockholm, le paysage politique suédois a vraiment changé en quelques années, notamment au cours de cette dernière législature.
Oui, c'est très clair et on voit l'impact des changements sociologiques en Suède. Et pour revenir à la question que vous avez posée, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, dans les dernières élections, on pourrait dire que d'un côté, les démocrates de Suède ont gagné le fait qu'ils ont pu déporter le débat politique sur un nouveau sujet qui était le sujet de l'immigration, alors que par exemple l'économie qui marche très très bien a été beaucoup plus absente. En revanche, ils n'ont pas réussi à transformer le fait de mettre ce sujet au centre avec autant de voix qu'on aurait imaginé. Et ça, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et comme si, au fond, les Suédois ont su, finalement, ont fait la part des choses par rapport à cet enjeu et ont cherché à voter, ce que j'ai envie de dire, au moins autant avec leur tête qu'avec leur tripe.
Thomas Lindbom, quels sont les scénarios possibles, sachant qu'aucun bloc et encore moins aucun parti n'a la majorité et que jusqu'alors il y a comme un cordon sanitaire autour des démocrates de Suède. Ils sont réputés infréquentables par les partis de gauche et de droite et personne ne veut gouverner avec eux et même pour l'instant discuter avec eux. Alors quels sont les scénarios possibles qui se dessinent ou pas en Suède ?
Oui, on discute beaucoup de différents scénarios. Je voulais juste rajouter à ce que mes collègues ont dit sur les résultats de l'élection, c'est que des deux grands partis, les sociaux-démocrates et les modérés, sont divisés en eux. Ils ont perdu les sociaux-démocrates ont perdu des votes à gauche, au parti de gauche et vers les démocrates suèdes. Et les modérés ont perdu des votes vers le parti centriste qui est plus généreux vis-à-vis de l'immigration et en même temps perdu des votes vers les démocrates suèdes. Les gens des modérés qui trouvent que c'est pas assez fort la politique d'immigration actuellement. Et ça fait que il y a ce clivage dans ces deux partis qui fait que ça complique encore la possibilité de former un gouvernement. Parce que si les modérés se tournent vers les démocrates de Suède, ils vont évidemment perdre beaucoup de respect, mais aussi beaucoup de soutien des modérés dans le parti, des électeurs modérés qui plutôt sont vers le libéralisme et vice-versa. C'est la même chose pour les sociaux-démocrates. Donc je pense que ça c'est un élément qu'il ne faut pas oublier quand on discute les difficultés de former un gouvernement. Mais si je réponds à votre question, je pense que il y a trois possible premier ministre. C'est le Stefan Löfven qui est l'actuel premier ministre social-démocrate. Il y a Ulf Kristersson qui est l'actuel leader du parti modéré. Et c'est Annie Lööf qui est le leader du parti centriste. Et c'est autour de ces trois personnes qu'il faut réfléchir pour trouver une solution de cette question.
Alors, ce pays est devenu, en tout cas pour l'instant, un ingouvernable. Et puis, entre les deux, il y a évidemment le leader des démocrates de Suède qui semble attendre son heure. Il s'appelle Jimmy Åkesson. Il n'est pas encore très, très connu ici en France et dans le monde francophone. Il est à la tête de son parti depuis 13 ans. Au départ, celui-ci était un groupuscule néo-nazi. Et ce passé lui colle à la peau, extrait d'une émission de la télé suédoise.
Il y a des partis politiques avec lesquels je ne m'identifie pas, par exemple celui de Marine Le Pen. Mais dans le contexte européen actuel, les gens font des parallèles ou des comparaisons. On me demande toujours de parler de nazis qui étaient dans ce parti il y a 30 ans. Et c'est deux poids, deux mesures, et j'en ai marre.
Avec Kalinowski, Jimmy Åkesson a 39 ans. Il a l'âge d'Emmanuel Macron. On sent dans toute l'Europe une nouvelle génération. Il ressemble un peu au gendre idéal. Hein. Il est très propre sur lui.
Il séduit. Il séduit une partie de l'électorat parce qu'il, mais on y reviendra, j'en suis sûr. Il réunit la critique, disons, de la crise sociale qui affecte la Suède avec la question de l'immigration. C'est ça qui explique cette percée extraordinaire. Mais vous savez, maintenant, au-delà de Jimmy Åkesson, qui est un designer web, donc la nouvelle économie, etc., il y a quand même des premières études sociologiques sur qui sont les électeurs de l'extrême droite. Donc, ces études montrent très clairement que ce sont quand même globalement des gens plutôt précarisés, plutôt en bas de l'échelle de revenus, plutôt dans des positions sociales qui sont globalement perdantes des transformations de ces dernières 20-30 années. Donc il y a quand même une critique, au-delà du discours sur l'immigration, il capte bien la critique sociale. Et donc c'est l'unité de ces deux éléments-là qui fait que, de façon très grossière, hein, il va, quel que soit les sujets finalement qu'il aborde, les retraites, l'école, la santé publique, il va presque toujours systématiquement dire que bon, il n'y a pas d'argent parce que le coût de l'immigration explose.
Alors il est très habile parce que il ne réclame pas une participation au gouvernement.
Ah ben, je sais que pour l'instant c'est impossible. Pour l'instant, son but c'est de tout simplement qu'on lui parle au Parlement, parce que jusqu'ici c'était quand même un cordon sanitaire. Donc il n'a pas eu d'influence. Il va avoir une influence comme les autres partis au Danemark, en Norvège, etc. l'ont déjà. Il va avoir l'influence sur le futur gouvernement. C'est pour ça que il tend la main sans cesse à la droite, puisque c'est uniquement avec la droite qu'il pourra acquérir cette position.
Alors, pour mieux découvrir ce personnage, Jimmy Åkesson et son parti, les démocrates de Suède, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Solveig Gram Jensen.
Bonjour Daniel.
Jimmy Åkesson est évidemment très connu en Suède, et cela fait longtemps que les journaux suédois ne dressent plus son portrait. Aussi, votre attention s'est reportée sur le journal allemand Der Spiegel, qui lui a consacré un long papier.
C'est vrai. Dans son papier, Der Spiegel explique donc comment Jimmy Åkesson est élu et a été, comment dire, élevé. Il a grandi dans une ville, Sölvesborg, une ville suédoise typique, mais où il y a depuis quelques décennies aussi des problèmes avec criminalité, avec l'intégration, bien sûr, avec des gens qui sont venus. Et du coup, Jimmy Åkesson, il a, depuis un très jeune âge, il s'est intéressé pour la politique et il s'est retrouvé le seul parti qui l'a attiré finalement, c'est donc les démocrates de Suède, où il a su, depuis qu'il est son président, vraiment transformer le parti à travers son personnage, justement, puisque c'est quelqu'un qui est toujours très calme, qui est bien habillé, qui donne une impression d'un personnage rationnel, on peut dire. Donc comme ça, c'est quelqu'un qui a su transformer un parti qui, depuis quelques temps quand même, est de plus en plus légitime au sein du débat politique suédois.
Et alors, s'il fallait le comparer à un personnage politique en France, par exemple, on penserait naturellement à Marine Le Pen.
On penserait naturellement à Marine Le Pen, mais c'est pas le seul personnage auquel je le comparerais. Moi, parce que je pense qu'on peut aussi voir en lui quelque part Florian Philippot, puisque c'est justement quelqu'un qui a donc fait des études. Il est toujours calme, même quand il se fait cracher dessus ou quand les autres leaders des partis politiques suédois ne veulent pas lui serrer la main, il dit ok, bon, c'est comme ça, jamais il perd la face. Donc il paraît très rationnel. Si on peut aussi le comparer bien sûr à Marine Le Pen, puisque c'est le président du parti, c'est parce qu'il a su moderniser, je dirais même dédiaboliser le parti. Il a complètement, par exemple, il a changé le symbole, ce n'est plus un flambeau en couleur jaune et bleue, c'est aujourd'hui une petite fleur bleue. Sa stratégie de communication est aussi très moderne. Tout passe par lui. En fait, il incarne vraiment personnellement le parti. Et ils ont même une campagne où parfois des coups de communication assez provocateurs. Par exemple, à Stockholm, dans le tunnel, dans un tunnel avec le métro, par exemple, il y a eu un moment des publicités où, en anglais, le parti de Jimmy Åkesson excusait qu'il y a de la mendicité en Suède. Et ça, c'était en anglais, donc adressé aux étrangers qui arrivent à Stockholm.
Pierre Fordham, il est relativement habile, on le comprend par les explications de Solveig, de Courrier International l'hebdo et de Courrier International.com, le site. Incontournable. Alors c'est amusant parce que lui refuse l'idée de comparer à Marine Le Pen, mais Marine Le Pen a quand même félicité pour son succès électoral.
Ben oui, je pense que ces partis qui se retrouvent sur l'enjeu, enfin du refus de la vague migratoire, effectivement, ont intérêt à montrer qu'ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Et objectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que on a affaire à quelqu'un d'extrêmement habile. Ça a été dit. Je partage. Il a dédiabolisé le parti. Il a extrait ses racines nazies. Sur les questions économiques, il a pas du tout les outrances du tout contre l'Union européenne. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est comment il a su entrer en lien avec les électeurs suédois par cette rationalité du discours. Et en particulier, comme il a commencé à parler des questions, d'immigration dans la dimension, non pas ethnique, là, qui aurait été absolument un interdit, mais culturel. Et là, il a rejoint ce qui était dit tout à l'heure, les questions sociales, les questions politiques, en posant la question de finalement comment on maintient une cohérence culturelle à notre modèle.
Thomas Lindbom, en tout cas pas de gouvernement avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Oui. oui, on peut demain, donc il y aura la première séance de l'Assemblée nationale, si on peut dire le Parlement suédois, et là il faut donc élire un président de l'Assemblée, et c'est ce président qui a la tâche selon la Constitution de trouver un premier ministre qui pourrait avoir le soutien du Parlement. Et il a quatre essais de faire ça avant qu'il y aura une nouvelle élection. Donc ça veut dire que normalement, personne ne croit que le premier essai de trouver un premier ministre qui a le soutien du Parlement va réussir. Donc probablement au moins deux ou trois avant que ça va réussir. Et si ça ne marche pas, donc après le quatrième essai, il y aura une nouvelle élection, mettons au mois de janvier, février ou mars l'année prochaine. Donc la situation est très incertaine pour le moment.
Vous vouliez réagir?
Oui, juste deux petites précisions par rapport à donc ce projet de dédiabolisation mené par Jimmie Åkesson. Il réussit pas jusqu'au bout, puisque presque tous les mois il y a des faits divers dans les médias suédois sur des propos très racistes ou antisémites ou profondément xénophobes d'un des membres du parti ou un élu local, etc. Donc on voit bien que c'est une envie d'être, disons, légitime maintenant, et d'où l'importance de ces discours sur la crise sociale, mais on voit bien que ses racines le rattrapent toujours. Et deuxièmement, leur position, c'est quand même que la Suède doit quitter l'Union européenne, ce qui est parmi les clivages, les difficultés, disons, pour une éventuelle collaboration avec la droite traditionnelle, c'est quand même pas une mince affaire, ces choix-là.
Alors c'est évidemment un point de vue qui n'est pas partagé par l'ensemble des Suédois, mais même si les Suédois sont évidemment dans l'espace Schengen, mais n'ont pas adopté l'euro, il reste quand même, Pierre Fortum, très européen.
Oui, mais pas au sens où on l'entend nous. C'est-à-dire, c'est la banlieue nord de l'Europe, il se définit souvent comme ça, et au fond, d'ailleurs même géographiquement, la Suède fait pas partie de l'Europe, hein, réellement. Et on sent malgré tout que l'attachement à l'Europe a été justement encore très rationnel d'un point économique. Il n'y a pas du tout le lien historique de plus de guerre entre nous. Donc quand la Suède est entrée dans l'Union européenne, c'était une décision finalement d'un intérêt économique. Mais voilà, ils ne sont pas porteurs des valeurs sur lesquelles le socle européen a été fondé, qui était, entre les Français et les Allemands en particulier, des pères fondateurs de l'Europe, qui était un projet qui dépasse largement les enjeux économiques pour faire une union des peuples, afin de plus jamais se faire la guerre. Et ça, c'est une différence fondamentale dans le rapport que les Suédois entretiennent vis-à-vis de l'Europe en général et de l'Union européenne en particulier.
Thomas Lindman, est-ce que vous diriez que le parti de Jimmie Åkesson, les démocrates de Suède, qui portent pas forcément très très bien leur nom, en tout cas qui perturbe un petit peu, est-ce qu'ils ont atteint leur plafond de verre? J'ai lu à plusieurs reprises que voilà, ils sont à 17,5%, ils grimperont peut-être à 20%, mais ce sera pour eux très difficile d'aller au-delà. Qu'en pensez-vous?
Alors, pas nécessairement, je peux qu'ils peuvent grimper un peu plus. J'ai une réflexion sur leur façon de gagner du soutien dans le pays. C'est aussi de travailler avec les communes, commencer par les communes. Et j'ai vu dans les journaux aujourd'hui, justement, que maintenant, ça commence les négociations dans le sud de la Suède, où le Parti démocrate Suède est plus fort qu'ailleurs. Et là, ils ont commencé des négociations directes avec les modérés. Et s'ils peuvent former des gouvernements locaux dans des villes, c'est leur premier but, et ils veulent par ça montrer qu'ils peuvent gouverner et que ça peut donner encore des soutiens dans l'avenir. Je pense que c'est un moyen de grimper qui est dans leur stratégie.
Nous allons faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète et de revenir évidemment sur la Suède, le résultat politique électoral et puis ce changement profond qu'a connu ce pays. A tout de suite.
Europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Les Suédois ont voté il y a tout juste 15 jours et le pays est dans l'impasse. Le score réalisé par le parti d'extrême droite, les démocrates de Suède, qui est arrivé en troisième position avec 17,5% des suffrages, paralyse le traditionnel système des blocs. Si les sociodémocrates restent le premier parti du pays, ils sont en net recul, tout comme l'alliance des conservateurs et des libéraux. Aucune coalition de gauche ou de droite ne paraît en mesure de gouverner le pays et la crise promet d'être longue. Mais au-delà d'un gouvernement introuvable, que s'est-il passé en Suède? L'afflux migratoire est-il la seule explication du succès du parti de Jimmy Åkesson? Est-ce la fin du mythe suédois et de cette société tolérante et prospère longtemps idéalisée? Le pays, réputé pour son sens du consensus, est en tout cas aujourd'hui fortement divisé malgré une réussite économique indéniable. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Wojtek Kalinowski, il est suédois et polonais. Il est aussi sociologue et co-directeur de l'Institut Veblen. Son dernier livre, Le modèle suédois et si la social-démocratie n'était pas morte, a été publié par les éditions Charles-Léopold Meyer. Pierre Fortum vit entre Paris et Stockholm, il est consultant. Et à Stockholm, Thomas Linden est journaliste et historien. Et merci à lui d'être en ligne de la capitale suédoise. Alors, on va laisser de côté au moins provisoirement la situation politique en Suède pour se consacrer un peu plus aux causes de ce résultat électoral, autrement dit à l'évolution de la société suédoise. Et évidemment, nous allons parler de migration. Wojtek Kalinowski, le pays a accueilli entre 2012 et aujourd'hui environ 450 000 immigrés, à comparer à 10 millions d'habitants, 160 000 à peu près pour la seule année 2015, c'est-à-dire que le taux d'accueil le plus important de tous les pays européens si on compare à la population. Est-ce que cet afflux massif de réfugiés explique tout et cette évolution de la société suédoise?
Non, ça n'explique absolument pas tout, mais c'est vrai que c'était une année très importante, une année des crises. Rappelons que la Suède a été le tout dernier pays d'Europe à fermer ses frontières. Ça veut dire que le gouvernement suédois comptait, je pense, jusqu'au bout sur une solution européenne, parce qu'Angela Merkel l'avait promise. Elle avait dit qu'on va trouver une solution européenne à cette crise. Donc, cette solution n'était pas venue. Et donc, les Suédois ont dû faire un revirement soudain. D'abord, ils ont laissé les frontières ouvertes. Ensuite, ils ont passé vite une loi qui les a fermées. Et donc, ça a été politiquement, il y a un prix à payer pour ça. Et ça vient néanmoins, comment dire, au bout de 20 voire 30 ans d'une transformation rapide. Moi, je me souviens, quand j'ai grandissais dans la Suède des années 80, c'était une société encore très largement homogène culturellement. Et aujourd'hui, on compte 20%, 24% d'origine des Suédois sont d'origine étrangère et 20% sont nés à l'étranger. 20% de la population est née à l'étranger. Donc, ça montre que c'est une transformation très rapide. Évidemment, ça provoque beaucoup d'effets médiatiques. Les statistiques montrent néanmoins que globalement, la Suède n'a pas connu ni une explosion de la criminalité. Et surtout, un deuxième point, je pense qu'on oublie souvent, enfin à mon sens, il y a bien une politique d'intégration suédoise qui, comparée à la France ou à d'autres pays, qui marche plutôt bien. Elle prend du temps. Ça veut dire que quand vous regardez le taux d'emploi des nouveaux arrivés, au début il est très bas, mais il monte au bout des 5-6 années à 60%, voire plus. C'est moins que les Suédois des souches, mais c'est tout à fait honorable dans une perspective européenne. En tout cas, aujourd'hui, il me semble qu'il y a un large consensus sur deux points. J'étais par là. Et c'est le premier point, c'est que les gens qui sont entrés en 2015 et avant vont rester. Donc maintenant, on se focalise sur l'intégration. Et donc là, il y a des désaccords politiques sur comment la faire, comment la réussir. Deuxième point, c'est aussi que, en attendant une régulation européenne de la politique de l'immigration, la Suède, effectivement, va garder une politique beaucoup plus restrictive. Donc, c'est pas une fermeture absolue des frontières, loin de là. Simplement, les taux d'entrée sont rebaissés, ont baissé au niveau antérieur à cette crise migratoire.
Pierre Fortum, peut-on dire aujourd'hui que la tonalité du débat politique a changé depuis 2015 et cet afflux de migrants? Avant, on parlait peut-être davantage de budget de l'éducation, d'égalité entre l'homme et la femme, où évidemment la Suède est très 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 en pointe, et aujourd'hui davantage de frontières, de délinquance, voire de criminalité.
Effectivement, et vous voyez qu'on a parlé, et s'il y a bien quelque chose qui caractérise pour moi justement la vie suédoise en général, la vie politique en particulier, et les statistiques jouent un rôle clé. Quand vous écoutez la radio en Suède, tous les matins, vous avez c'est une statistique sur n'importe quel sujet, avec un travail scientifique toujours extrêmement construit. Pour les Suédois, la maîtrise de l'information à travers des faits objectivés est essentielle. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui peut poser problème, c'est cet écart entre perception et statistique. C'est-à-dire, il y a la perception, et d'où que la criminalité a augmenté, en particulier sur un sujet extrêmement précis qui est les attaques sexuelles, les viols. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le système statistique suédois est un peu démuni pour rendre compte de cette réalité. Mais c'est en train de bouger. En réalité, quel est l'impact de l'immigration sur le crime, etc., etc. Eh bien, les Suédois, comme on le disait tout à l'heure, très rationnels, vont pouvoir se remettre à penser différemment.
Thomas Limon, vous confirmez les propos de Pierre Fortum, à savoir il y a un décalage entre la réalité d'une situation et la perception qu'on peut en avoir, parce que si on regarde un peu la situation de la Suède, c'est un pays qui marche très très bien en Europe. Hein, le taux de croissance est d'environ 2%, c'est tout de même important compte tenu pour un pays qui est déjà très très prospère. Le chômage est relativement faible, 6%, on est proche du plein emploi. C'est un pays qui va très très bien. Est-ce que les Suédois ne se rendent pas compte, ont oublié, ou que ce pays, finalement, c'est un
paradis du monde.
Le paradis du monde,
compris.
C'est ça.
Oui, non, mais c'est un peu ça. Moi, je trouve que le raisonnement de Pierre est très juste. Moi, je voulais juste rajouter qu'il y a, on pouvait dire, les statistiques et les faits présenté par la radio et la télévision d'État et par les journalistes de ces chaînes et une certaine frustration dans certains milieux du peuple, surtout dans les régions rurales, les petites villes, etc., qui sont un peu abandonnées par une c'est comme tout en Europe, dans l'Europe de l'Ouest, en tout cas, une coalition de des hommes et des femmes politiques, les médias et tout l'establishment de la société. Et ça, on n'a pas vu ça en Suède avant, on a quand même eu une société assez plate, assez horizontale, et c'est devenu des dernières années, des dernières décennies, beaucoup plus hiérarchisé, et on sent la frustration de ces gens. Et moi, je lis de temps en temps dans les médias sociaux, justement, ce que les gens qui votent pour les démocrates suèdes, comment ils raisonnent dans les médias sociaux, et c'est vraiment une frustration que je n'ai jamais entendu dans les années 70 ou 80 par exemple, où c'était différent. Donc je pense que c'est ça le point. Et en plus, il y a une certaine, parce que il ne faut pas oublier que les démocrates suèdes, ils présentent le leader dès qu'il commence un discours, il commence avec le mot les amis de Suède. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait un clivage entre les Suédois, entre guillemets, vrais Suédois qui sont nés en Suède et les gens qui ont seulement la citoyenneté suédoise. Et quand on entend ça, quand on est déjà frustré de la société, c'est comme on pense, voilà, c'est l'immigration, c'est nous, les vrais Suédois qui souffrent, et ça crée un certain énervement et frustration qui est réelle en Suède aujourd'hui.
Alors pour reprendre sur le terme de l'énervement, de la frustration, Wojtek Kalinowski, est-ce que on peut dire que les Suédois ont un peu de mal à croiser des femmes voilées dans la rue, par exemple?
Ce sont des choix personnels. Oui, il y a certains Suédois qui ont du mal avec ça. Il y a une dimension sans doute culturelle, d'apprentissage culturel de la diversité. Cet apprentissage, de toute façon, sera long. On voit très bien que c'est une question, disons, des classes, hein, comme disent les sociologues. Ça veut dire il y a certaines populations qui acceptent plus facilement cette nouvelle Suède.
C'est peut-être d'autres. Encore plus important et plus marquant en Suède, qui est quand même un pays où l'égalité entre l'homme et la femme est particulièrement vraie.
Oui, et c'est vrai que c'est aussi là où il y a eu peut-être le revirement le plus visible des partis traditionnels qui insistent aujourd'hui beaucoup plus sur nos valeurs suédoises, et donc quelles sont ces valeurs, ils vont toujours dire effectivement égalité homme-femme. Donc c'est sûr que le climat a changé, puisque cette diversité culturelle en Suède, on veut on n'est pas en train de dire ici qu'il n'y a aucun problème. Il y a bien des petits problèmes que la Suède va sans doute régler, mais il y a bien un débat sur Burqa. Il y a tous ces débats-là que la France connaît depuis longtemps. Aujourd'hui, on sent un revirement. Disons, pour que les en France, on dirait républicain. Un revirement républicain, c'est tout simplement nous, nos valeurs, avec une modération justement qui pousse l'extrême droite à la surenchère, puisqu'ils vont aller plus loin pour se distinguer. Maintenant, il faut qu'ils soient encore plus radicaux que les autres. Donc c'est vrai que tout en étant isolés au Parlement, ils influencent quand même le débat. Oui, c'est sûr.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, la Suède dans l'impasse politique, et la Suède un pays en profonde mutation sociale et économique. Je reviens un petit peu à ce que disait Wojtek Kalinowski, que l'intégration se fait plutôt pas si mal que ça en Suède. Est-ce que vous diriez que la société suédoise, est-ce qu'elle fabrique des petits Suédois qui n'ont pas forcément des yeux bleus et qui sont blonds?
Je pense qu'elle en a vraiment la capacité, au sens où ce dont parlait Wojtek tout à l'heure, il y a des processus d'intégration qui sont extrêmement bien pensés, qui sont à la fois très accueillants, très inclusifs et en même temps exigeants. Je vous donne un exemple. On a eu récemment en France, je crois, un débat suite à l'idée qu'il serait... Pourquoi pas apprendre l'arabe dans les écoles en France? Ben, je peux vous dire qu'en Suède, il y a un système qui marche extrêmement bien depuis toujours, qui s'appelle Hemspråk, qui veut dire le fait que tout petit Suédois dont la langue maternelle n'est pas le suédois a la possibilité d'avoir des cours, je crois, c'est 1 heure et demie par semaine, dans sa langue, afin de ne pas perdre le lien culturel et de continuer à maîtriser la culture d'où il vient. Donc c'est valable pour c'est en place depuis très longtemps, et je pense que c'est un exemple très concret de cette intelligence dans laquelle on peut devenir parfaitement un citoyen du modèle suédois tout en ne renonçant pas, en ne demandant pas de renoncer à son identité.
Thomas Lindbom, est-ce que l'immigration sonne ou pas la fin du modèle suédois, c'est-à-dire la quintessence de l'État-providence et quelque part de la social-démocratie? Alors, je poserai évidemment la question aussi à Wojtek Kalinowski, qui en a fait un livre. Mais votre point de vue déjà, Thomas Lindbom.
Si on parle des démocrates suédois, ils essayent de mettre la question migratoire dans toutes les autres sujets de politique. C'est le problème de la santé ou des hôpitaux, c'est à cause de tout ce qu'on paye pour l'immigration, la même chose pour l'éducation, etc. Aucun parti veut dire qu'on est contre l'État-providence. Mais c'est sûr que pour les sociaux-démocrates, ça a été dur, et peut-être parfois on est étonné que ça a été aussi dur de présenter leur modèle. C'est quand même des sociaux-démocrates qui essayent de garder le modèle suédois le plus, avec une ouverture relative quand même aux immigrations. Mais ça n'a pas marché, parce que je crois que ce qui a vraiment bouleversé le débat en Suède, c'est pour revenir à 2015. Et c'est le Parti social-démocrate qui, jusqu'à 2015, a été une parti avec une idée d'immigration libérale, plus garder l'État-providence, a été bousculé par ces événements en automne 2015, et ils n'ont plus aussi valable dans leur position aujourd'hui qu'avant, parce que cette immigration a été si brusque, si fort, que les gens se disent mais comment ils n'ont pas pu prévenir ça, et ils n'ont pas on doute un peu sur leur façon, leur possibilité de vraiment faire une politique valable aujourd'hui. C'est là, je pense, que c'est un problème pour la façon dont les sociaux-démocrates traitent le sujet de l'État-providence aujourd'hui.
Thomas Lindbom, est-ce que vous êtes en train de dire que les dirigeants politiques suédois ont fait preuve un peu de naïveté par rapport aux problèmes migratoires?
Ils ont fait ça, oui, je pense absolument. Et aujourd'hui, c'est aussi qu'ils ont pris les sociaux-démocrates et les modérés, ils ont pris beaucoup de ces raisonnements des démocrates suèdes. Et ça fait qu'il y a ce clivage dans le parti social-démocrate et dans le parti des modérés qui vraiment blesse ces deux partis. Et quand on parle des sociaux-démocrates, il y a beaucoup d'électeurs sociaux-démocrates qui viennent de la classe moyenne, qui sont sociaux-démocrates parce qu'ils veulent une immigration plutôt généreuse. Et ils ne se sentent pas à l'aise, et donc ils cherchent d'autres partis. Donc je peux rajouter que les partis qui ont été clairs avec la question migratoire à l'élection de cette élection 2018, ce sont les partis de gauche, c'est les centristes et les démocrates suèdes. Ils ont gagné. Tandis que les partis qui ont été plutôt vagues, là ce sont les sociaux-démocrates et les modérés, ils ont perdu.
Wojtek Kalinowski, j'ai envie de vous poser la question en reprenant le titre de votre livre, Le modèle suédois, et si la social-démocratie n'était pas morte.
Écoutez, si la social-démocratie européenne meurt, ça sera en Suède qu'elle meurt en dernier. Voilà, c'est ma réponse provisoire. Mais disons les choses clairement, il y a bien une bataille idéologique autour du modèle suédois qui n'est pas liée directement à l'immigration. L'immigration en fait partie, mais elle est beaucoup. Vous savez, l'État-providence suédois, il n'est pas tombé du ciel. L'organisation du marché du travail avec la négociation, la place des syndicats, des partenaires sociaux, tout ça n'est pas tombé du ciel. Le consensus sur le marché du travail où la Suède a très très peu des grèves, ça n'est pas tombé du ciel. C'est l'œuvre des décennies de travail politique qui a transformé la société suédoise. Donc depuis les années 90, la Suède au début des années 90 a connu une très grande crise économique. Et on voit très bien qu'il y a eu toute une série de transformations qui commencent à ce moment-là. On en voit une crise, disons, rampante, pas une remise en cause, mais une crise rampante. On voit, par exemple, le taux des prestations sociales qui baisse progressivement. Les sociaux-démocrates qui sont revenus au pouvoir il y a 4 ans, ils ont utilisé à leurs 4 années pour colmater les brèches. Mais comme c'était un gouvernement minoritaire, ils n'ont pas fait assez. Alors que la dette publique est très basse et les marges de manœuvre sont là. Donc, en réalité, moi, j'ai envie de vous dire que la bataille pour l'intégration, elle se joue sur ce plan-là. Vous voyez, en fait, c'est un pays qui a traversé des crises économiques et qui accueille des populations immigrées très importantes et qui tient quand même à un modèle du marché du travail ou un modèle d'État-providence unifié. Ça veut dire on essaye de donner le même type de protection sociale pour tout le monde. C'est très ambitieux. Il faudrait sans doute des recettes fiscales pour continuer. Et évidemment, c'est là où le bât blesse, puisque là, ça fait 20 ans que la fiscalité ne baisse plus, elle n'augmente plus, elle baisse plutôt. Et j'étais frappé par la lisibilité de ce débat politique pendant cette campagne-là, où il y avait bien une philosophie social-démocrate sur toutes ces questions-là, contre une philosophie plutôt libérale. Bon, les sociaux-démocrates en Suède, au moins, ils peuvent montrer le taux d'emploi qui est le taux record en Europe. En disant nous avons accompli ça sans suivre les recettes libérales que vous préconisez. Et les Suédois ont connu 4 années des réformes libérales qui ont dégradé les systèmes sans ramener le plein emploi non plus. Donc aujourd'hui, il y a quand même une...
On peut rappeler que les sociaux-démocrates sont les pays les plus importants, restent le premier parti de
Suède. Ils étaient habitués à 45% dans les années 70.
Ils sont en moins
donc
de 30,
aujourd'hui, c'est évidemment historiquement ça, c'est plus voilà. Ça. Mais néanmoins, une nouvelle fois, si vous comparez avec la crise de cette tradition-là qui est sur l'Europe continentale, c'est relativement ça va.
Thomas Lindbaum.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Wojtek dit. Le problème, c'est que dans le débat à l'élection, avant l'élection, c'est pas ça qui a été au centre du débat. C'est plutôt la discussion migratoire, et après il y a certains sujets sur des malaises dans les hôpitaux, des queues longues pour des opérations, des choses comme ça. Et les sociaux-démocrates ont eu très très mal à trouver des moyens pour présenter sa politique et ses idées comme Wojtek très bien a présenté maintenant. Et les gens n'ont pas écouté ou les médias n'ont pas pris ces questions, mis ça au centre du débat. Donc je pense que beaucoup de Suédois, je prends un exemple, uniquement 40% des membres de syndicats d'ouvriers, alors on peut dire CFTT ou CGT en Suède, a voté pour les sociaux-démocrates. Avant, il y a 20 ans, c'était 90%, tandis qu'à peu près 20-25% ont voté pour les démocrates suédois. Et beaucoup d'ouvriers ont voté pour les modérés, les libéraux, le parti de gauche, etc. Donc il y a une grande possibilité, difficulté pour les sociaux-démocrates, même chez les ouvriers. C'était vraiment la grande bastion avant de ce parti. Ils ont perdu énormément d'électeurs, là.
Pierre Fortum, la Suède est réputée pour être un pays libéral, tolérant. C'est aussi un pays luthérien où les règles de vie en commun ont une grande importance. Alors, auxquelles il est peut-être difficile pour les nouveaux arrivants, les migrants qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent d'Afrique, de s'intégrer. Alors, est-ce que vous parleriez de tolérance de façade ou d'une indifférence des Suédois à l'égard de toutes ces populations qui arrivent et qui ont un mode de vie différent et qui ne sont pas forcément compatibles avec le mode de vie suédois que vous avez évoqué à plusieurs reprises?
C'est vrai qu'il y a culturellement, dans les pays scandinaves en général, une tendance à être entre soi, à rester entre soi. Ils sont restés entre longtemps. La Suède, le Danemark ont rejoint l'Union européenne avec certaines limites, certaines réticences. Et au sein de la société maintenant, c'est vrai qu'il y a une tendance à l'entre-soi. C'est-à-dire, et le modèle fonctionne sur une communauté à l'échelle de la nation, on laisse personne sur le bord du chemin et on a un sentiment de solidarité entre tous, de droits et de devoirs entre tous. Mais en même temps, c'est vrai, est-ce que c'est, alors c'est plus une observation que je fais, c'est qu'il y a une vraie tendance à la recherche entre soi. Je donnerai l'exemple de la petite ville où j'ai vécu plus d'une dizaine d'années, à côté de Stockholm, où il y a systématiquement une liste qui veut faire sécession entre la partie, j'aimerais dire, historique, bourgeoise, il faut le dire, blanche de la ville, et l'autre partie qui est où il y a essentiellement des immigrés. Et c'est peut-être ça, hein, cette notion luthérienne de communauté. On est tout à fait ouvert et tolérant, enfin, d'une manière extrêmement générale. En même temps, on ne va pas forcément rechercher à se mélanger. Ça peut générer un peu de fragmentation parce qu'il y a une forme de, je ne vais pas dire ségrégation, le mot serait beaucoup, mais au moins, informellement, les gens ont tendance à rester entre eux.
En vérité, Galinowski, vous allez conclure. La Suède et les Suédois sont aussi caractérisés par un très grand pragmatisme. Et ce pragmatisme, est-ce qu'il va prendre le dessus par rapport à ce que vient d'exprimer Pierre Fortum? Est-ce que, finalement, cette crise profonde, qui est au-delà d'une crise politique, peut-être une crise de société, est-ce que les Suédois, par leur pragmatisme et la confiance qu'ils ont en eux-mêmes, vont réussir à la surmonter?
Bon, là, c'est l'intuition qui parle. Moi, je pense que je pense que oui. Mais effectivement, vous avez bien dit, Pierre, que que il y a bien distingué deux choses. Il y a le temps long de l'intégration culturelle et le temps plus court des politiques sociales. Et ensuite, le temps le vraiment court de la gestion d'une crise migratoire. Donc, c'est pas les mêmes échelles. Je reconnais bien cette homogénéité, cette l'entre-soi suédois. Et ça prendra des décennies à changer. Je pense que ça dépend aussi de quelle partie de Stockholm, parce qu'il y a quand même du brassage dans le brassage, mais c'est en France finalement, je pense qu'on retrouvera le même type de différence entre il y a des quartiers qui sont plus brassés que d'autres, donc c'est un phénomène social, l'entre-soi c'est un phénomène social très général, on le retrouve dans toute société de toute façon, donc je pense qu'il faut toujours vivre, la société fait quand même une unité, et là où c'est important, c'est quand on regarde là où je suis confiant, c'est que quand on regarde le sondage sur la la volonté des Suédois de payer l'impôt pour financer le service public, pour financer l'école. On voit très bien, le Parlement suédois mène une enquête tous les 10 ans, où c'est le parlementaire eux-mêmes qui demande à la société, est-ce que vous faites confiance à l'État social suédois pour assurer la qualité suffisante dans les EHPAD, dans les crèches, dans les écoles. Donc c'est l'État suédois s'auto-évalue lui-même par la population. Donc en soi déjà c'est une belle tradition de démocratie en réalité. Et là on voit bien qu'il y a un soutien qui est très important pour continuer de financer les systèmes communs, les systèmes de protection communs. Il y a eu une petite baisse dans les années 90, mais les taux ont même augmenté dans les années 2000. Donc il y a bien un attachement à ces modèles-là. C'est pas exactement la même chose qu'effectivement ce qui s'y passe dans un quartier de Stockholm ou ailleurs.
À vous écouter les trois, on a compris en tout cas que le modèle suédois survivra, il évoluera. En tout cas, il a une capacité, semble-t-il, à vous écouter, à surmonter ces difficultés. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Fonso et Solveig Gram Jensen de Coin International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres. Le podcast sur le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Twitter et Facebook. Daniel Desesquel, que vous soyez à Stockholm, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, c'est possible. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.